En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde.
Cela bon sera votre labo.
Vous avez carte blanche.
Well, you're always going towards an idea. You know, that's what makes you put the patch cords in certain places. You know, part of an instrument is what it can do, and part of it is what you do to it. The other part of music, of course, is the motion and the personal involvement that a musician gives to his instrument. And that's something that I happen to feel and have with synthesizers. So I play the synthesizer the same way somebody else would play cello or violin.
Imaginez un piano électronique, c'est le synthétiseur. Vous appuyez sur les touches, ça produit du son, vous avez le pouvoir sur le son. Maintenant, imagine que ce piano, à la place que les fils soient à l'intérieur, soient tous à l'extérieur. Imaginez un piano avec plein de fils et plein de boutons, gigantesque. C'est le synthétiseur modulaire. On pourrait le comparer à une soucoupe volante, une salle de commande d'un avion, et c'est pas anodin, car en plus de ressembler à un objet du futur, il produit un son plutôt futuriste. Donc là, on va rendre hommage à Suzanne Ciani pour son Boucla concert de 1975, qu'on va pouvoir écouter justement juste ici. Donc comme vous l'aurez compris, on va parler au cours de cette carte blanche de cet instrument du synthé modulaire, retour dans les années 50 aux États-Unis. La firme Radio Corporation of America développe le premier synthétiseur créé par les ingénieurs Harry Olson et Herbert Bellard. Et c'est au cours des années 60 que le synthétiseur évolue. En 1964, trois modèles de synthétiseurs sont développés simultanément. C'est la naissance du synthétiseur modulaire. Un synthétiseur qui possède des modules qui permettent donc aux musiciennes et musiciens de véritablement expérimenter, travailler, voire moduler le son. Ainsi, les synthétiseurs modulaires sont extrêmement puissants et souples parce qu'il n'y a aucune limite quant à la manière dont ils peuvent être reliés. Aujourd'hui, on va évoquer une ébauche de l'histoire de ces instruments et évoquer leur incroyable souplesse, leur polyvalence et leur puissance. En 1963, l'ingénieur italien Paolo Ketoff crée le cinquette. C'est une révolution puisque chaque module peut être contrôlé indépendamment. Il faut savoir que c'est un instrument unique, fabriqué sur mesure par Ketoff, où il n'existe qu'une douzaine de variantes entre 1963 et 1977. Le synthétiseur modulaire facilite donc la création de musique électronique qui était auparavant réalisée par enregistrement et montage sur bande magnétique. Ce qu'on peut entendre depuis le début, du moins ici, là, c'est un album de l'artiste allemand Einbach. Donc il a été sorti, publié en 2022. Il s'appelle tout simplement Cinquette Studien. On peut constater qu'on est plutôt sur de la musique générative avec un oscillateur continu qui permet d'osciller le son, de faire en sorte d'un va-et-vient avec un signal électronique. Il faut juste retenir que chaque forme d'onde électronique permet de produire un son spécifique. Là, on peut donc travailler le son comme on le sent. Pour ce qui est de l'artiste Einbach, ce dernier explique que c'était le tempo, donc c'est-à-dire le mouvement musical, qui a guidé son interaction avec l'instrument. Ainsi, Einbach s'est adapté aux fonctionnalités du synthétiseur, où chaque morceau, je cite, est le résultat d'un apprentissage, de la difficulté de jouer d'un instrument non documenté et de la joie procurée par son son incroyablement riche et puissant. Revenons en 1963. Le synthétiseur était initialement, en reprenant les mots du philosophe espagnol David Martinez Orilla, un clavier relié à un ensemble de modules, boîtiers équipés de potentiomètres, de commutateurs, de connecteurs et ainsi de suite, qui eux étaient reliés entre eux par des câbles pour produire du son. Un instrument innovant mais aussi encombrant, lourd et coûteux. De ce fait, l'ingénieur américain Robert Moog va donc inventer un synthétiseur intégré et non modulaire qui est à la fois compact, portable et suffisamment abordable tout en étant polyvalent et facile à utiliser. C'est la création du Moog Synthetizer. C'est horrible cet accent. Donc voilà, la clé du succès en fait du Moog, c'est, ça va rester, on va dire... comme on appelle ça, sa chaleur sonore. La remarquable innovation du Moog est l'ajout de la molette de pitch bend qui permet de contrôler manuellement la hauteur des notes, ainsi que la molette de modulation, les deux outils situés à gauche du clavier. Alors c'est le musicien Wendy Carlos qui va participer à la démocratisation du synthétiseur modulaire et surtout du Moog, notamment avec la sortie de son album Switched on Bach, un album qui reprend des œuvres de Bach au synthétiseur. C'est Rachel Elkin qui est à l'origine de Switched on Bach. En effet, cette dernière c'était une sorte de Gertrude Stein pour les musiciens talentueux dans les années 60. Il faut savoir que Stein, c'était une très grande collectionneuse d'art au XXe siècle qui a contribué notamment à la diffusion du cubisme et des œuvres de Matisse. Et c'est en 1967 que Carlos rencontre Elkin, une ancienne chanteuse et secrétaire de feu Godard Liberson, directeur de Columbia Records. À cette époque, Columbia n'avait pas un seul enregistrement de Bach au son contemporain. Elkin et Carlos décidèrent donc de compiler leur interprétation électronique virtuose des plus grands morceaux de Bach. Ainsi, les époques s'entrecroisent et se rencontrent. Semblable à la pochette de disque, le grand Beethoven, vêtu à la dandy, casque audio à la main, se tient devant le synthétiseur de Carlos. Semblable au mantra du chimiste Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'art, c'est avant tout une transmission, une inspiration. L'essence même de l'art est sa capacité à se renouveler, à se moderniser, à se transformer, semblable au synthétiseur modulaire. Les perspectives fractaliennes se rencontrent. C'est l'infini, c'est la beauté. C'est Wendy Carlos qui reprend Bach. Il faut savoir que Switched on Bach, n'est pas forcément disponible sur Internet. J'ai pu trouver une version de l'album en MIDI, mais je ne sais pas si c'est très fidèle à l'original. Mais en tout cas, ce qu'on a pu écouter, c'est, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais en tout cas, c'est un extrait de la BO d'Orange Mécanique qui a été réalisé par Wendy Carlos en 1971. Deux ans auparavant, en Europe, la firme anglaise EMS propose des modules non séparés, conçus comme un ensemble. C'est la création du VCS3. C'est l'un des représentants de la proto-ambiance des années 70 qui profitera de toutes les possibilités du VCS3, musicien qui a été bassiste dans Tangerine Dream notamment, le compositeur allemand Klaus Schulze, avec son album Cyborg qui est sorti en 1973. Ainsi, cette ambiance cosmische amorce la philosophie transhumaniste qu'on peut retrouver chez certains artistes contemporains. Des corps hybrides, entre technologie et humanité, où la singularité de l'espèce humaine se fond dans un univers mécanique, technologique. Semblable au visuel et à la musique des artistes Björk et Arca notamment. Le cyborg, personnage de science-fiction ayant une apparence humaine greffée avec de la mécanique et de l'électronique, c'est Klaus Schulze. Ainsi, en appelant son album Cyborg, Schulze se définit comme un transhumaniste. Son synthétiseur, c'est lui. Lui, c'est son synthétiseur. Une esthétique de l'ambiguïté, une hétérotopie mécatronique alliant mécanique, électronique et informatique, avec une part d'humanité. Alors, comme on a pu le constater, au-delà d'une révolution technologique, c'est aussi un changement de paradigme pour les musiciens grâce au synthé modulaire. Cette sensation analogique que procure le synthétiseur modulaire permet donc aux artistes de développer leur propre signature sonore. Une voie vers l'indépendance, vers la liberté. Wendy Carlos dans les années 60, Klaus Schulze 10 ans après, et leur successeur Einbach en Allemagne en 2022 qu'on a évoqué, ou bien l'artiste français Brise Lame. Au cours de Miosis, où tout commence par une fréquence qui s'est déroulée au Capucin à Brest samedi 14 mars, j'ai pu m'entretenir avec l'artiste Brise Lame, amateur de synthétiseurs modulaires. Donc en vue de notre conversation, je pense qu'on a très bien résumé ce que je voulais dire pour cette carte blanche. Dans ce paradigme des synthétiseurs modulaires, aussi attirant qu'effrayant, il existe plusieurs manières de créer un synthétiseur modulaire, de faire du modulaire, pardon. De ce fait, au sein du modulaire, il existe plusieurs philosophies, plusieurs visions de la musique. Retour sur la discussion que j'ai eue avec l'artiste Brise Lame sur le modulaire et la musique d'une manière générale. une discussion autour du modulaire, de ses inspirations sous le soleil de Brest en face du pont de Recouvrance. Mais avant ça, voici le dernier single de l'artiste qui surfe entre musique générative, modulaire, IDM. Voici Immersion de l'artiste Brise Lame, sorti en 2024. Bonne écoute sur Radio U. C'était la track Immersion de l'artiste Brise Lame, sortie en 2024. Brise Lame, c'est un héritier de celles et ceux qui modulent et qui expérimentent le son. Donc, je suis en compagnie de Brise Lame. Merci d'être avec moi. C'est hyper gentil de ta part.
Bah, merci beaucoup à toi, en tout cas, pour l'invitation.
Il n'y a pas de souci. Bah, écoute, on va parler musique, on va parler synthé modulaire, ouais. Tout ce qu'on aime pour passer un bon moment. Donc, je vais te présenter un peu. Brise Lame, de ton vrai nom Victor Bocquet, tu commences à t'imposer dans le paysage sonore à partir de 2020 en postant des carnets techno. Ouais. En tout cas, il y en a 9 en tout qu'on peut retrouver sur ta page YouTube. Pardon, on va retrouver dans tes vidéos des instruments qui semblent un peu obscurs, des contrôleurs. On a l'impression de voir un rack aussi, et je vulgarise pour l'auditeur, pardon, mais un rack, c'est simplement un meuble de rangement prévu pour des sous-ensembles électroniques.
Voilà, est-ce qu'on va parler un peu de ton setup? Est-ce que tu peux un peu nous vulgariser tout ça, expliquer ouais. C'est quoi ton setup maintenant, actuellement?
Tout à fait, ouais. Du coup, pour mon setup, ça a pas mal évolué depuis le début. Avant, je faisais vraiment du live full machine. L'idée, c'était de construire tout un live avec que des synthétiseurs et des séquenceurs hardware et pas d'utiliser ordinateur. Et en fait, depuis quelques temps, avec la musique que je fais, j'ai eu besoin vraiment de retourner sur l'ordinateur. Et aujourd'hui, j'ai un live un peu plus hybride avec des synthés modulaires, Ableton Live à côté sur un ordinateur, des contrôleurs et des synthés aussi un peu plus conventionnels, Prophet, MS-20. Voilà. Donc là, ce soir, j'ai mon gros setup de live avec tout. Et j'ai un petit setup un peu plus transportable pour des petites dates, avec juste le modulaire et l'ordinateur, quoi.
D'accord, est-ce que tu peux un peu vulgariser, parce que je pense que les auditeurs ne savent pas ce que c'est Ableton Live, par exemple.
Ouais, carrément. Déjà, Ableton Live, c'est ce qu'on appelle un DAW, donc c'est une station de travail audio numérique. Donc ça permet de composer de la musique sur son ordinateur et d'enregistrer de la musique sur son ordinateur. Et ça peut servir aussi de séquenceur pour contrôler les notes qui vont être envoyées dans les synthétiseurs. Ça permet de contrôler du matériel hardware aussi, des vrais synthés, voilà.
Ok, trop cool, merci. Une question toute simple, mais ça vient d'où cet attrait là pour le modulaire, qui est quand même une science un peu obscure pour les gens, je pense.
Ouais. Je pense que ça vient surtout de groupes que j'ai pu voir en live, qui m'ont un peu inspiré là-dessus. J'ai vu Soulwax à un moment, qui utilisait pas mal, pas forcément que du modulaire, mais des gros synthés sur scène. En fait, j'ai vu pas mal de gens à un moment qui utilisaient des gros synthés. Et c'est plus l'objet, ouais, qui m'a intéressé, le son que ça produisait. Et j'ai eu très vite envie de m'intéresser à ça, donc j'ai commencé par des petits synthés que j'ai achetés, qui étaient très très simples. Et au fur et à mesure, en allant plus dans le sound design et dans le son, je me suis plus rapproché de ces synthétiseurs modulaires qui permettent vraiment de tout sculpter et tout créer, quoi.
Depuis 2020, tu vas sortir un peu plusieurs projets, on va dire. Ouais. On a un premier EP en 2020, c'est une année qui a été assez fructueuse pour toi. Tu sors Ripples.
Oui.
Tu vas sortir après deux autres EP, House en 2021, Sweet Spots en 2022, deux singles. Seaweeds en 2020, Immersion qu'on a écouté sur Radio U tout à l'heure.
Ouais.
Et puis, il y a aussi ces sorties un peu... un peu plus spontané de tes lives, j'ai l'impression, sur ta chaîne YouTube.
Ouais.
Donc en fait, tu alternes entre ces deux modes de composition. Du coup, je voulais savoir quel mode de composition tu préfères. Est-ce que tu préfères les jams un peu intuitives avec tes synthés, qui est, on dirait, comme une sorte de jeu, ou alors composer tout seul dans ton appart, ses EP et ses singles?
Je pense que généralement, quand je compose, c'est plus du jeu un peu intuitif. Et un peu empirique, justement, c'est ce que permettent les machines là, c'est tu branches et tu testes un petit peu ce que ça fait. Et généralement, ça permet en fait de te faire des idées assez rapidement et d'expérimenter, d'avoir des samples et des textures. Avant, j'étais full machine, donc j'utilisais que ça. Maintenant, j'utilise ordinateur pour resampler des échantillons de mes machines, réintroduire ça après dans ma composition. Donc en fait, le modulaire, ça devient plus un peu un générateur de textures, un générateur d'idées. Et après, je vais tout retravailler dans Ableton. Je fais moins aujourd'hui ce truc de... Vas-y, je fais une vidéo où je joue live et j'improvise. J'ai plus un truc un peu en deux temps où je vais improviser un peu dans mon coin et après recomposer, resampler ce que j'ai fait pour sur ordinateur, quoi.
Donc tu joues un peu avec les deux, quelque chose d'intuitif.
Ouais.
Après, tu composes,
ouais,
tu prends
c'est
le
ça.
Temps un peu de réfléchir chez toi.
T'as un truc un peu de... je sais pas comment dire, d'improvisation et de flux un peu, où t'es là en train de juste kiffer ce que tu fais, d'improviser et de chercher des trucs. T'enregistres ça pendant des heures, pendant 10 heures, et après tu réécoutes ça le lendemain et tu te dis « Ah bah, en fait, c'est complètement pourri ce que j'ai fait. » Ou alors
ouais.
« Cette partie-là, elle est trop bien, je pourrais juste la sampler et faire un hook avec ça. » Et puis créer une track à partir de ce petit morceau-là, quoi.
C'est intéressant, c'est un jeu.
Et après,
un peu...
c'est un peu un jeu d'aller-retour, comme ça. Donc ça dépend un peu des tracks, mais généralement, c'est plutôt comme ça. Ouais.
Mais on voit qu'il y a quelque chose d'un peu réfléchi, parce que parfois, par exemple, sur ton EP Ripples, on peut avoir des tracks, les deux premières, elles sont pas un peu conventionnelles, classiques. En tout cas, il y a des kicks de techno, etc. Mais il y a la troisième track, Collapse. On est dans quelque chose d'un peu plus hybride. Où là, on a une recherche d'une signature sonore, j'ai l'impression.
Ouais.
Du coup, on a un proto-IDM, j'ai l'impression, dans ta discographie. Du coup, c'est assez intéressant. Voilà, tu as des influences un peu éclectiques, hybrides, j'ai l'impression. Ça va être de la house, il y a des kicks de techno aussi, mais tu parles de drum and bass. Ouais. Et tu parles aussi d'IDM. Est-ce que tu peux me parler de tous ces genres qui t'intéressent?
Ouais. Je crois que je suis rentré dans la musique électronique déjà en écoutant pas forcément des trucs, des esthétiques de musique électronique qui sont très liées à la techno, l'IDM ou ces choses-là. C'est des trucs plus pop. Je pense que je suis plus rentré dedans par la pop, comme avec Soulwax par exemple, ce qui est une formation qui est un peu plus rock-pop au final et qui est influencée par de la musique électronique. Donc c'est plus ça qui m'a touché dans un premier temps. Et quand j'ai commencé à faire mon projet, je crois que j'avais très peu de culture en musique électronique. J'avais plus un truc de rock, de trucs d'où je viens, quoi, des instruments que j'ai pu faire avant. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai fait de la musique électronique, j'ai un peu appris. Et, on m'a dit, tiens, ce que tu fais, ça fait penser à ça. Ou alors, va écouter ce truc-là. Voilà. Et en fait, c'est en faisant du synthé modulaire et tout ça que j'ai écouté genre Aphex Twin, des trucs genre... datasets, des trucs IDM, des trucs très briqués, et ça m'a influencé, ça m'a donné envie d'aller dans ce sens-là, quoi, parce que je trouvais que t'avais une créativité folle, en fait, t'avais pas de limite, contrairement à la musique électronique que j'écoutais quand j'allais en boîte de nuit ou en soirée, où c'était très boom boom, assez commercial. Là, j'ai découvert tout un pan, en fait, où t'as de la musique ambiante, t'as de la musique plus drum and bass, t'as des trucs très breakés, des trucs qui sont... Enfin, ouais, t'as un peu de tout, et t'as... Je pense tous ces artistes-là, plutôt scène anglaise, Warp Record, tous ces gens qui m'influencent, genre Clark, ces choses-là, ils sont super libres dans leur démarche. Aussi, c'est super agréable à écouter sur un album, une grosse track d'ambiante au piano, et après, un track d'IDM à 170 BPM qui va à fond la caisse et qui va dans tous les sens. Et du coup, je trouve ça super libre comme démarche, et
ouais,
c'est assez inspirant.
C'est un peu amener l'auditeur là où il ne s'attend pas forcément. En fait,
ouais. Ça, et puis c'est une liberté aussi de dire, bah, ok, si pendant mon live, je veux faire 10 minutes d'ambiante, même si c'est une soirée techno à 2h du matin, je peux le faire, tu vois, et c'est pas grave. Et
ouais,
les gens
ouais.
vont peut-être s'en aller ou les gens vont rester parce qu'ils vont kiffer avoir une petite pause, et puis, puis voilà.
Il y a une certaine forme de liberté, mais c'est vrai que quand Aphex Twin a commencé à composer du son, en tout cas, on le considère comme un des pionniers de l'ambiance techno. Et après, avec Selected Ambient Works de 92, c'est là qu'il se rapproche de l'IDM. J'ai l'impression que cette formation, elle est un peu commune à des gens qui sont intéressés à l'IDM. Je pense à Aphex Twin, mais il y a une nana aussi à Rennes, Lim68K, qui est sur Max maintenant. Mais c'est vrai que ses premières tracks, elles sont vachement deep house, techno, etc. Donc c'est assez intéressant.
Une progression, mais je pense que c'est pareil dans le rock, tu vois, si on fait un rapprochement avec d'autres musiques et d'autres niches. Tu écoutes du rock, et peut-être qu'au bout d'un moment, tu te dis, ok, j'ai écouté quoi? J'ai écouté The Cure, j'ai écouté les Rolling Stones, peut-être que j'en veux un peu plus après. Donc tu vas dans des styles peut-être un peu plus extrêmes, un peu plus expérimentaux. Tu vas dans le punk rock pour l'énergie, ou tu vas dans des trucs plus expérimentaux, je sais pas. Oui, Divo, des trucs, des trucs un peu plus niche, donc du métal, des styles un peu plus extrêmes, quoi. Donc
oui, c'est un peu naturel, en fait. Si t'as une curiosité, tu vas forcément t'intéresser.
Tu dis le truc et tu essaies d'aller un peu plus loin dedans. Je pense que c'est ça.
Ouais. Bon, c'est intéressant. Et moi j'ai écouté. Tu as sorti un set d'IDM et d'IDM sur ta page YouTube, je crois. Bon, j'ai vu tes influences, mais du coup, est-ce que tu peux m'en parler? Peut-être que ta tracklist, les gens que tu as choisi, enfin que tu as
mixé. J'ai une playlist qui est visible sur YouTube, c'est
ça? Ouais, il y a. Okay.
Je sais plus ce qu'il y a dedans.
Il y a Switch Fou, et je pensais à Switch Fou et Aphex Twin notamment. Tu peux peut-être m'en parler un petit peu.
Aphex Twin, on en a parlé déjà un peu avant, mais c'est carrément. Vraiment une bonne influence. Mais globalement, tout le label Warp, en fait, c'est une grosse influence globalement. Et après, Switch Fou, c'est un artiste qui est français, qui est pas forcément que sur le modulaire, mais qui est vraiment un monstre de l'IDM, je trouve, et du sound design. Et c'est super inspirant et fou à écouter. Enfin, à chaque fois, c'est une claque, je trouve.
Ouais.
Donc c'est bien. Mais il y a beaucoup de choses en France qui sont très très chouettes. Et on n'a pas du tout à rougir, je pense, les artistes qu'on propose, même si c'est peut-être des labels qui sont moins... exposé que Warp, mais ça commence, je trouve.
Tu penses à quel label, par exemple?
Nous, on est en train de monter un label à Paris avec mon collectif. Il y a plein d'artistes trop bien.
Tu peux faire ta pub si tu veux.
Donc je fais la pub pour Record, c'est un label de, voilà, de musique comme ça, un peu IDM et tout.
Intéressant.
Donc on a sorti une compilation là, et puis on sort une artiste qui s'appelle Goupil dans pas très très longtemps. Voilà, un EP et tout. Okay. Mais du coup, en France, non, il y a plein de trucs. Bah, même à Astropolis, à Brest, il y a beaucoup d'artistes qui sont sectionnés, qui sont un peu dans ces mouvances-là aussi.
Carrément.
Voilà.
Ok, trop intéressant. Bah, écoute, on ira écouter ton label, ça a l'air vraiment intriguant. Ouais. On va plutôt parler de toi, en vrai, Victor. Ouais, on va parler un peu de toi. Donc, t'es fils d'inventeur de jazz, t'as eu un groupe de punk avec ton frère au lycée. Est-ce que t'as sans doute été un peu bercé assez jeune avec ta famille dans le monde de la musique, cette influence ?
Bah, mon père, il est batteur de jazz, mais il était prof de sport aussi.
Okay.
Maintenant, il est batteur de jazz, mais quand il était plus jeune, c'était vraiment plus rock, tout ça. Il a fait la première route du rock à Rennes
Fun
et
fact.
Tout. Fun fact, voilà. Donc il y avait toujours du rock à la maison. Ouais. Pas beaucoup de musique électronique, mais beaucoup de rock.
Mais après...
Un peu beaucoup de Stuart Copeland. Beaucoup.
Je me dis comme le jazz et le punk, c'est un peu des genres qui sont développés en périphérie de la musique classique, occidentale ou autre. Enfin, plutôt classique, on va dire. Du coup, bah, forcément, l'IDM, ça t'a forcément intéressé. Je veux dire, s'il y a une influence jazz et punk.
Je pense que c'est plus l'influence punk en fait que jazz. Mais je pense que c'est un truc dans la musique anglaise, que ce soit dans le punk ou dans l'IDM, qui est super brut et intéressant, et je pense qu'il y a une énergie anglaise qui me plaît trop à écouter. Et je suis allé en Angleterre très récemment là, à Manchester. Je faisais les lumières pour un artiste dans une grosse warehouse, et les Anglais étaient incroyables. Enfin, toute l'énergie, même la musique qui était mise toute la nuit dans la warehouse, c'était que des trucs qu'on n'écoute pas trop en France. Enfin, j'ai l'impression, genre des trucs très UK bass, house, drum and bass, etc. Et la soirée était folle, le son était trop bien, et je pense que c'est vraiment un truc de musique qui me touche beaucoup. Et même quand je vais à la route de rock l'été, il y a beaucoup de groupes anglais, et à chaque fois ça me touche, tous les trucs de post-punk anglais, ça me parle à chaque fois. Donc je pense que c'est cette énergie un peu british qui me plaît.
Je comprends, l'histoire de la musique anglaise, elle est foisonnante, est extrêmement riche. On va revenir un peu au synthé, au modulaire, si ça te dit. Est-ce que tu peux un peu en première partie de l'émission, on est revenu sur l'histoire du synthétiseur modulaire, on a essayé de vulgariser, mais toi, est-ce que tu peux me donner une définition un peu plus concise, voire métaphorique, du synthé modulaire, du modulaire?
Métaphorique, c'est intéressant, en vrai.
Fonctionner par image, parce que comme on est à la radio, je pense que...
L'image pas trop métaphorique, mais ce serait en gros l'image un peu, on va dire, toute bête et simple, serait de dire on prend un synthétiseur, on l'ouvre et on refait le câblage à l'intérieur et on refait tout le son, quoi. Je pense que c'est le plus simple. Et après, métaphoriquement, je trouve que c'est un médium comme n'importe quel instrument qu'on peut personnaliser à fond et vraiment construire comme on le souhaite. Donc c'est à la fois un instrument qui est personnalisé et un instrument de musique électronique, voilà, qui est pas forcément que dans une boîte, mais qu'on va pouvoir déconstruire et reconstruire comme on veut. Puis il y a autant de philosophies que de personnes qui en font. Il y a autant de philosophies que de marques aussi. Quand tu regardes les débuts de la synthèse, t'as en gros deux marques qui se battent en duel, t'as Buchla et Moog. Et d'un côté, Buchla, c'est un peu les hippies West Coast, et Moog, c'est un peu les gens sages East Coast qui font de la musique un peu académique et tout. Et selon les marques, selon l'endroit où tu es, selon tes influences de musique, oui, c'est un truc qui s'adapte un peu à toi et qui est vraiment sur mesure. Ouais. Quoi.
Et du coup, est-ce que tu auras un petit conseil si, enfin, je sais pas, il y a un auditeur ou une auditrice qui serait intéressée par le synthé modulaire, qu'est-ce que tu leur conseillerais dans un premier temps ?
N'y allez pas, ne le faites pas. Je pense que c'est encore plus accessible aujourd'hui parce qu'il y a des marques qui sont moins chères déjà, donc juste d'un point de vue de coût, etc., ça peut être accessible. Je pense qu'il est important, c'est de se renseigner à fond sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut comme type d'instrument aussi. Il y a des gens qui vont faire juste de la drum avec le modulaire, par exemple, faire une boîte à rythme. Là, c'est le cas avec Hazar qui passe après, là, le batteur.
Tu peux préciser pourquoi ? C'est pour Miosis, c'est ça ?
C'est pour Miosis, c'est un festival qui a lieu aujourd'hui à Brest. Et du coup, il y a pas mal d'artistes qui passent. Et c'est soit des DJ, soit des groupes live, soit des live machines. Et là, le groupe qui passe après s'appelle Hazard Hazard. Et en gros, le batteur de Hazard Hazard, lui, il a un modulaire qui fait des sons de drum et ça complète sa batterie. Louise, dont j'ai parlé, elle a fait du saxophone elle fait de la clarinette. Et son modulaire à la base, c'est comme un pedalboard pour améliorer sa clarinette, quoi. Elle fait de la musique ambiante et elle va pouvoir resampler, retravailler le timbre et le son de sa clarinette dans son modulaire pour faire de la musique.
Quoi, ouais. D'accord, okay.
Donc ça peut être à la fois une pédale d'effet, ça peut être une boîte à rythme, ça peut être une voix de synthèse, un synthé classique. Donc c'est juste voir un peu les besoins qu'on a dans son setup aujourd'hui, réfléchir à ce qui nous manque et comment ça pourrait venir compléter déjà ce qu'on a, quoi. Je pense que c'est la façon la plus simple. Sinon, on peut foncer dedans à fond, dépenser tout son argent et puis revendre après ces trucs au fur et à mesure et choisir.
J'ai l'impression que c'est un peu paradoxal parce que ça a l'air inaccessible, parce que ça a l'air cher. Et en même temps, quand tu vois un synthé modulaire, on dirait une aire de jeu, quoi. Comme c'était finalement hyper intuitif et facile, ouais. Je sais pas si c'est... Voilà.
T'as envie d'y aller, quoi.
Ouais. Voilà.
Et après, je pense que même quand t'es habitué à jouer du synthé modulaire, nous, avec mon collectif et même avec d'autres musiciens, quand on se croise, on n'arrive pas à jouer sur les modulaires des autres, en fait. Jamais, c'est impossible. Apprendre en main, c'est trop long parce que t'as tellement pensé à ton truc, à ton setup et tout, que c'est compliqué, en fait. C'est comprendre toute la philosophie de quelqu'un et la démarche qu'il a dans son projet et ça prend du temps, quoi.
Moi, je pense qu'il y a pas mal d'humilité aussi entre musiciens.
C'est ton truc, on touche pas trop, etc. Enfin, on regarde mais on te laisse faire. Je pense qu'il faut pas hésiter à y aller. Et puis il y a aussi des logiciels gratuits aujourd'hui qui permettent de VCVRAC qui permet de faire du synthé modulaire sur son ordinateur et c'est gratuit. Et il y a les mêmes modules que ce qui existe dans la vraie vie dans le hardware.
Ok, donc c'est intéressant. Ouais, ça peut donner envie en fait au-delà du prix, quoi, juste s'initier tranquillement. Bah, trop bien. Bah, écoute, je crois qu'on a terminé avec le modulaire. Moi, j'aurais juste certaines questions à te poser. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, dans ton EP Ripples, je trouve qu'il y a parfois des démarches un peu poétiques. Par exemple, tu vas citer pour Ripples Umberto Eco, une phrase tirée du nom de la rose. Sorti en 1980, je vais juste citer parce que je trouvais ça assez beau. Donc, il possédait, me sembla-t-il, une extraordinaire délicatesse de tact, la même dont il usait pour toucher ses machines. Ouais. Je dirais en effet que cet homme curieux emmenait avec lui dans son sac de voyage des instruments que je n'avais jamais vus jusqu'alors. C'est une phrase que je trouve assez contemporaine. Et aussi, par exemple, dans ta track House, tu parles du fait que ça évoque la routine. Donc, il y a une démarche un peu poétique, j'ai l'impression, en citant Echo, en parlant de métaphores, etc. C'est quelque chose qui te parle, ça ?
Ouais, carrément. Je pense que je l'avais plus au début dans mon travail. C'est vrai que j'ai un peu perdu ce truc de sampler ou de reprendre des choses existantes. Je pense que c'était un peu un prétexte aussi à ce moment-là parce que j'avais acheté un sampler.
Ouais.
Et j'avais cette phrase. J'ai écouté ce livre audio, du coup. Et j'avais eu cette phrase et je me suis dit, vas-y, je vais la sampler, j'ai mon sampler qui est tout bien là.
Tu trouvais qu'elle ressemblait un peu, cette phrase ?
Ça me parlait, quoi. Franchement, quand j'ai écouté. Et puis en fait, vu que je me mettais aussi à c'est un peu la période où je m'y mettais vraiment. Du coup, ça m'évoquait ce truc de machine, de truc un peu de curiosité et tout. Donc ça me parlait trop sur le moment, ouais. Clairement. Je pense que ça me ressemble moins aujourd'hui. Ouais. Bah si, j'ai toujours ce truc de curiosité, mais je suis plus dans la démarche de faire du son.
Ouais.
Je pense que je suis moins à sampler des choses comme ça. Mais c'est trop marrant, tu m'en reparles, parce qu'en fait, ça fait super longtemps que je n'avais pas écouté ce truc.
D'accord.
Et je ne me rappelais même plus, en fait, ce truc-là. Et c'est trop drôle, parce que tu m'en reparles.
C'est un petit souvenir qui revient.
Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là parce que je ne l'ai pas trop intellectualisé, mais en effet, ouais, c'est drôle.
Bon, après, on n'est pas obligé d'intellectualiser, pardon.
Je suis d'accord. On n'est pas obligé de tout intellectualiser.
Clairement pas, tu vois. Bon, moi, j'ai un peu une démarche comme ça, mais en vrai, faut pas prendre les choses trop au sérieux, tu vois. Et s'amuser c'est trop important.
Bah oui, c'est trop important de s'amuser.
Mais on va parler quand même. Il y a un truc qui m'a assez intriguée, c'est vraiment tes visuels qui viennent habiller tes tracks un peu, je trouve. Il y a des images bigarrées, biomorphisme, déconstruction qu'on peut retrouver chez certains artistes d'IDM. Je pensais à FX Twin, mais aussi Arca. Du coup, quand ça t'est venu l'idée en fait, d'habiller tes tracks comme ça, avec des images, et comment tu génères ces images-là
qui sont, carrément. Bah, c'est une démarche que j'ai un peu depuis toujours parce que je suis graphiste. Du coup, c'est mon vrai métier. J'ai toujours eu cette démarche un peu d'art numérique, de créer des visuels, de générer du visuel avec un ordinateur et avec des logiciels et du code. Et je pense que c'est ce qui m'a rapproché aussi du synthé modulaire à un moment, parce que tu as ce truc un peu génératif que tu peux faire aussi avec les synthés modulaires. Et ce que je fais aujourd'hui dans mes visuels, c'est surtout déjà pour habiller mes tracks, comme tu disais. C'est beaucoup autour du milieu de la mer, en ce moment, ce que je fais en live. Et en fait, il y a toute une histoire sur mon live avec une sorte de mission sous-marine où en gros c'est un peu séquencé entre des moments où on est sous l'eau et des moments où on remonte un peu à la surface. Et du coup, visuellement, l'idée c'était de retranscrire ça à des moments qui sont vraiment sombres, qui peuvent être sous l'eau, qui peuvent être des batailles contre des créatures mystérieuses, des chasses au trésor, etc. Remonter à la surface quand on est un peu esquinté par une bataille, etc. Ou alors des moments plus d'équipage où les gens de l'équipage vont faire la fête, etc. Donc en fait, j'ai plus réfléchi mon live comme ça. Et là, mes visuels, ils essaient de correspondre à ce truc-là, de fur et à mesure. Et l'idée, du coup, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Touch Designer, qui est un logiciel de génération d'images temps réel. Qui est gratuit, enfin, une version qui est gratuite, une version payante qui permet de booster un peu le truc, mais on peut très bien s'y mettre gratuitement. Et ça permet de faire de l'art génératif et du visuel génératif sans vraiment coder, parce que c'est un système modulaire aussi, qu'on va retrouver un système nodal dans le logiciel. Et ça permet de faire des visuels génératifs sans coder. Et ça, c'est super pratique quand on est graphiste et qu'on ne sait pas trop coder et qu'on ne veut pas trop s'y mettre.
C'est pas évident, hein.
Ouais, mais c'est top. Et parce que moi, enfin, j'utilisais vachement des outils comme Processing avant, ou des choses comme ça, qui permettent aussi de faire du visuel génératif, mais là, il faut vraiment coder tout. Ouais. Et là, c'est bien, en fait, c'est comme le modulaire, on branche des câbles ensemble dans le logiciel, et on s'amuse, on teste, on regarde ce que ça fait. Et on peut faire pas mal de choses.
Bon, bah, trop cool. Bah, merci, Brislam. Je vous invite à aller checker sa chaîne Brislam, oui, c'est ça, sa chaîne YouTube. Et puis, ton Bandcamp aussi.
Ouais.
Et puis, ta petite vidéo du dôme d'Astropolis.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ça a dû être un événement assez symbolique dans ta vie, peut-être, d'être à Astro.
Déjà de rejouer en Bretagne, parce que je joue que à Paris, généralement, pas que à Paris, surtout à Paris.
Ouais.
Même si je rejoue à Brest ce soir, c'est cool. Et c'est un festival qui est un peu mythique, donc c'était bien d'aller là-bas. Et l'accueil était trop dingue, c'est vraiment le meilleur accueil de festival, c'était Astropolis, quoi. Et il pleuvait un peu, j'ai pas eu le temps de tout voir le soir même, mais j'ai vu des trucs trop trop bien.
Mais t'as passé un bon moment.
Oui, trop.
Bon, bah, trop chouette, merci Brislam. On va terminer avec un questionnaire de Proust revisité. Ton instrument préféré et pourquoi ?
La batterie. Parce que c'est mon premier instrument et c'est le truc le plus cool en live à voir.
Ok, le principal trait de ton caractère ?
Curieux.
Ton principal défaut ?
Curieux, non. j'ai du mal à dire les choses.
Ah, voilà. Ça arrive.
Ton rêve de bonheur ?
Mon
rêve de bonheur, jouer du synthé modulaire partout dans le monde.
Quel serait ton plus grand malheur ?
J'ai fait un cauchemar l'autre jour.
Ouais, raconte-nous.
Je perdais vraiment tous mes instruments, quoi.
Ouais.
Et c'était assez terrible. Je crois que c'est pas le pire ce qui pourrait m'arriver. C'est pas le pire, mais j'étais deg. J'étais un peu deg, quoi.
Je comprends. Ouais. Ta compositrice, ton compositeur préféré, et pourquoi ?
Compositeur préféré ou compositrice, c'est compliqué.
Oui, c'est très précis, hein, désolé. Hein.
J'ai une grosse phase là ces derniers temps, NoFX, avant qu'ils se séparent. Et je trouve que Fat Mike, qui est le bassiste chanteur de NoFX, il est incroyable. Et c'est un super bon chanteur, enfin compositeur et parolier. Et voilà, je dirais Fat Mike.
Garde ça. La musique que tu mettrais à ton enterrement ?
Wow. je crois que je mettrais un truc d'ambiance.
Très méta,
je mettrais un truc d'ambiance, genre Caterina Barberi, tu vois.
Ok.
Genre ultra planant, pas trop triste, mais un peu juste planant. Tu vois.
Je connais pas du tout, mais vas-y, j'irai
c'est
écouter.
Vachement bien, c'est trop cool.
L'état présent de ton esprit, enfin comment tu te sens
Là, je me sens fatigué parce que j'ai fait Paris-Brest ce matin avec les copains, mais je suis très content de jouer.
Chouette.
Retrouver mes amis et tout.
Ta devise dans la vie
J'ai pas de devise dans la vie. C'est marrant le truc de devise, j'ai l'impression que ça fait un peu dans les familles américaines, c'est qu'ils ont une devise.
Oui.
C'est comme dans Stuart Little, là, Little.
Non, mais peut-être ton mantra, tu vois, pour,
ouais, mantra, ouais.
Qui te permet un peu de relativiser, d'avancer.
Bah, ouais, je pense que le seul truc qui me conduit, c'est de découvrir des choses et d'être curieux. Et voilà. Enfin, que ce soit en musique, en graphisme, je pense que c'est le seul truc qui me motive vraiment le matin en me levant, c'est de me dire ah chouette, je vais pouvoir plein de références de trucs et écouter plein de musique.
Tu vas jamais t'ennuyer quoi.
Non.
Et merci Brislem d'avoir été avec nous sur
Radio. Merci à toi.
On va terminer. Moi je te laisse libre de choisir la musique qu'on va écouter. Ça peut être un son à toi, un son d'un pote, ça peut être aussi un son que tu aimes beaucoup, que tu écoutes en ce moment.
Son d'un. Est-ce que je dois dire une musique parce que vous allez la mettre après, c'est ça ?
C'est ça. On va terminer l'émission sur ta track.
Square Pusher, j'ai parlé de Square Pusher avant, mais Square Pusher, il y a un album qui s'appelle Do You Know Square Pusher, mm-hmm. et la musique Do You Know Square Pusher de l'album Do You Know Square Pusher.
Great. Voilà. On va écouter ça et bonne écoute sur Radio U et merci Brislem d'avoir été avec nous.
Merci. Square Pusher with all the different stuff done on base. Set to you for all the marks of the kingdom praise. We enter now on second and PSP. And to you, girl, gonna f*** it out on FFT. Square Pusher with all the different stuff done on base. Set to you for all the marks of the kingdom praise.
pressure with all the different stuff on ice. Send to you all the bombs as a king and price. We enter now on the same from PSV. And do you go to the 40 now for FFC? Spread pressure with all the different stuff on ice. Send to you all the bombs as a king and price. We enter on the same from PSV. And do you go to the 40 now for FFC? Spread pressure with all the different stuff on ice. Ice, ice.
C'était Do You Know Square Pusher de Square Pusher, choisi par Brise Lam. Je le remercie aussi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Donc c'est la fin de cette carte blanche, mais avant de vous quitter, j'aimerais rajouter quelque chose. Déjà parce que j'ai pas fait l'histoire de Boukla, Brise Lam en a un peu parlé, mais je pense que ça nécessiterait plutôt une plus grande carte blanche, surtout de comparer en fait l'école Moog et l'école Boukla. Et j'aimerais aussi rajouter qu'on peut... En fait, synthétiseur modulaire et hermétisme, ça peut être lié, mais je pense que le seul défaut justement du modulaire, c'est son prix qui est relativement élevé. Mais grâce aux innovations technologiques, on peut très bien s'initier au modulaire grâce à VC Verac, comme évoqué par Brise Lam. N'hésitez pas, chers auditeurs, à tester VC Verac, à le télécharger. N'ayez pas peur et prenez du plaisir sur VC Verac. Ne vous laissez pas impressionner par tous ces fils et tous ces boutons. VC Verac, je pense que il est là aussi pour désacraliser le synthé. Ça permet aussi de donner la possibilité à tout le monde de faire du modulaire et de la musique gratuitement. Amusez-vous bien et à la prochaine.